Vite, bonjour.
Bonjour, le nouvel horaire des CFF est entré en vigueur ce matin. Plus de liaisons directes entre le Jura ou Neuchâtel vers Genève Aéroport, des trains plus lents pour certains mais plus ponctuels. C'est le plus grand changement depuis 20 ans, on fait le point en ouverture de ce journal. Des bancomates explosés, il n'y en a jamais eu autant qu'en 2024 en Suisse. Alors comment parer aux attaques? Une start-up vient au secours des banques, vous l'entendrez. Du ski alpin à la une aussi, à Val d'Isère, les Suisses n'ont pas brillé en slalom. Seul Justin Murizier a une chance de podium. Dans ce journal aussi, nous irons en Syrie. Notre envoyé spécial est allé sur les terres des rebelles islamistes qui ont fait tomber Bachar al-Assad. Le groupe HTS, dirigé depuis 5 ans la région d'Idlib, vous entendrez des habitants de la région. On fera le tour de la presse alémanique avec une procédure contre un oncle de Bachar al-Assad sur le point d'être abandonné en Suisse. Et puis du cinéma et un documentaire à voir dans les salles romandes, le destin d'une jeune iranienne qui se bat pour réaliser son rêve, devenir chanteuse. Dans un quart d'heure, et si la médecine entamait sa révolution spirituelle, c'est ce que réclame le psychothérapeute et psychiatre Jacques Besson. Il est l'invité de Manuela Salvi dans À Voix Haute. Météo, des nuages encore au nord du Jura et dans les Préalpes. Ailleurs, du soleil, 5 degrés et une faible bise autour du Léman. Soyez les bienvenus. Pas d'incident à signaler sur le rail en Suisse romande, malgré le nouvel horaire des CFF en vigueur depuis ce matin. Une quarantaine de personnes sont présentes dans les gares principales de Suisse romande pour orienter les passagers. Et à ce stade, tout se passe comme prévu, indique les CFF. Le véritable test, néanmoins, ce sera demain, avec la reprise du travail. 1 300 000 personnes seront dans les gares et les trains dans toute la Suisse. Et il faut dire qu'il y a cette année beaucoup de changements. Nicolas Rosset s'est rendu à Renan, dans le centre de contrôle des CFF, qui gère le trafic en Suisse romande.
Alors bien compris, Amérin.
Les ordres fusent, ils sont des dizaines de spécialistes à surveiller les centaines de trains qui roulent simultanément en Suisse romande. L'horaire 2025 est inhabituel, presque tous les horaires changent. David Fadber, directeur CFF Suisse romande.
On a totalement revu l'offre en Suisse romande, on a décalé parfois jusqu'à un quart d'heure les trains et tout le système de correspondance. Je conseille vraiment à nos clients de consulter l'application CFF ou l'horaire en ligne pour être sûr d'arriver correctement à destination.
Horaire chamboulé, plus de trains sur certains axes ou quasi disparition des liaisons directes entre Jura, Neuchâtel et Nord-Vaudois vers l'aéroport de Genève. Autre nouveauté, beaucoup de trains seront plus lents. Ceci permettra d'améliorer la ponctualité, promettent les CFF. David Fadber.
Oui, la ponctualité sera meilleure en Suisse romande dès l'année prochaine. Après, ce n'est pas l'horaire qui va empêcher les aléas d'exploitation, un dérangement technique à l'infrastructure, des soucis avec des animaux au bord de voie ou d'autres causes qui font qu'on doit ralentir les trains ou que les trains sont supprimés. Par contre, la trame de base sera beaucoup plus robuste et on devrait être beaucoup moins confronté à devoir courir pour attraper son train lors d'une correspondance.
L'horaire 2025, un horaire aussi dicté par les centaines de chantiers qui permettront à terme d'améliorer l'offre, c'est la promesse des CFF. Un conseil, consultez les horaires.
Pour la 2-0, prêt au départ, quoi.
Précision de Nicolas Rosset. Le nombre de bancomates attaqués à l'explosif a atteint un record cette année en Suisse, selon les données publiées aujourd'hui par Fedpol. Un contexte qui a poussé ces derniers mois plusieurs établissements bancaires à mettre hors service des machines. C'est le cas de la Banque cantonale neuchâteloise qui a annoncé vendredi en retirer certaines définitivement. Mais pour permettre à nouveau le retrait d'argent, des distributeurs de la BCN ont été déplacés. Plusieurs sont désormais équipés d'un rideau de protection métallique. Bonjour Romain Bardet.
Bonjour Blandine.
On vous retrouve à Neuchâtel et derrière cette technologie se trouve l'entreprise jurassienne Framliner et son système Talos. La demande a explosé, hein, Romain.
Oui, son patron Frédéric Ramseyer le reconnaît. Il a du travail par-dessus la tête depuis le printemps dernier.
On est passé d'une petite dizaine à plusieurs dizaines, voire centaines de pièces. Nous avons vendu principalement à des établissements bancaires, que ce soit des banques cantonales, des banques Raiffeisen, des plus petites banques aussi. Et nous avons aussi vendu des éléments à des régies immobilières, notamment dans les grandes villes, pour sécuriser les halls d'entrée et ce genre de choses.
80% de ses clients sont en Suisse, le reste en Allemagne et désormais le marché français est en ligne de mire. Le système consiste en une cage d'acier qui déploie un store blindé motorisé, de quoi sécuriser les bancomates en extérieur, toujours moins nombreux, et ceux situés à l'intérieur des bâtiments, des machines qui de plus en plus sont indisponibles durant la nuit.
Les banques ont admis qu'il fallait absolument sécuriser les appareils, les fermer durant la nuit, là où on a un 100% d'attaque, mais un 0,5% de retrait en argent.
Et pour Frédéric Ramseyer, tous ces efforts devraient porter leurs fruits.
C'est clair que nous, tout seuls, on ne va pas apporter grand-chose, mais avec les fabricants, avec l'aide de Fedpol, avec les systèmes de maculature, tout ce qui existe aujourd'hui, tout cela combiné, on arrive vraiment à des résultats qui sont probants.
2024 semble donc marquer un tournant dans la stratégie des banques pour éviter ces attaques.
Merci Romain Bardet. En ski alpin, après la victoire de Marco Odermatt dans le géant hier à Val d'Isère, les slalomeurs suisses sont un peu à la peine ce matin. Patrick Delletreau, on vous retrouve sur place. Seul Loïc Meillard peut espérer s'approcher du podium.
Oui, le Valaisan qui est sixième actuellement après la première manche, mais à 20 centièmes de ce podium, selon les conditions, il peut tout à fait espérer l'atteindre en deuxième manche. Il fait d'ailleurs beau quand on parle de conditions maintenant à Val d'Isère. Pour les autres, il s'agit de s'améliorer. Tanguy Neff est 14e à 1,94 du leader. Luca Erni, 16e à 2,04. Pour eux, il est important de ne pas perdre de rang sur le second parcours. Ça a été beaucoup plus difficile pour Daniel Yule, 23e à 2,24. Ramon Sennheiser ne s'est pas qualifié. Marc Rochat lui a enfourché. Il est éliminé. Et puis devant, eh bien, c'est un skieur de 25 ans qui s'était révélé à partir d'Adelboden en janvier dernier, 6e à Lévis, 4e à Gurgel cette saison, qui continue sa progression et qui surtout assume ses propos. Il s'agit de Steven Amier, le français. Il disait avant cette course qu'il voulait réussir ici sur une piste qu'il connaît très bien devant son public en l'absence du grand favori Clément Noël, blessé hier. Amier est un nom qui dit quelque chose aux passionnés de ski alpin ou aux plus anciens, puisque Steven est le fils de Sébastien Amier, surnommé Bastoun, vice-champion du monde et vice-champion olympique de la discipline.
Merci Patrick Delletreau, en direct de Val d'Isère. Et départ de la deuxième manche, ça sera à 13h sur RTS2. À voir donc. Et ce soir chez les dames, c'est le Super G de Beaver Creek qui sera à suivre dès 19h. Et bonjour Sandra Timmerly.
Bonjour Blondine.
Vous avez lu pour nous la presse alémanique ce matin et dans nos journaux ce constat. La Suisse veut suspendre une procédure contre des crimes de guerre commis en Syrie.
Oui, et ça juste maintenant, souligne la Sonntagszeitung, alors que le régime de Bachar al-Assad et de tout son clan s'effondre après 50 ans de règne. C'est à lire aussi dans le Matin dimanche. Alors de quoi, ou plutôt de qui parle-t-on? De Rifat al-Assad, un oncle de Bachar al-Assad, ancien commandant, cet homme de 87 ans aujourd'hui, est considéré comme responsable du massacre de Hama, comme on l'appelle, en 1982. L'un des pires du régime Assad, attaque au gaz toxique, exécution, torture. On parle de dizaines de milliers de morts. Tout ça pour contrer le soulèvement des frères musulmans. Or, depuis 11 ans, la justice suisse, qui l'accuse de crimes contre l'humanité, tente en vain de faire venir Rifat al-Assad, qui jongle avec les certificats médicaux chez nous. Et voilà que, selon les journaux, le tribunal pénal fédéral serait sur le point de clore la procédure, motif l'accusé ne serait plus en état de voyager et se défendre. Alors, du côté des victimes, c'est la stupéfaction. Le massacre hante les survivants depuis 42 ans, témoigne une de leurs avocates à Genève. L'acte d'accusation représentait enfin un espoir concret de justice.
Cette citation à présent, Sandra, Maillard gâche la fête de Viola Amert.
La présidente de la Confédération, donc, c'est le titre de la NZZ am Sonntag, en cause la lettre que Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse, a adressée au Conseil fédéral en début de semaine et que le journal a pu lire en exclusivité, précise-t-il. Nous constatons avec grande inquiétude que jusqu'à présent, les négociations n'ont pas permis de régler les problèmes liés à la protection des salaires, écrit Pierre-Yves Maillard. Les syndicats demandent donc au gouvernement de ne pas encore conclure les négociations avec Bruxelles. Or, on le sait, la Berne fédérale se prépare déjà, si tout va bien, comme le rappelle le Sonntagsblick, à accueillir Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, samedi prochain pour sceller l'accord. Et les anti-Europe, eux aussi, se préparent déjà. L'organisation Masfol a déjà déposé sa demande d'autorisation pour manifester, croit savoir le journal.
Et on termine en montagne avec le soleil.
Mais attention, pas pour skier, pour produire de l'électricité. Les prévisions pour les installations photovoltaïques sont beaucoup trop euphoriques, titre la Sonntagszeitung. Axpo ne table plus que sur un quart de ce qui était prévu jusqu'en 2030. Alors, la faute, non pas aux oppositions, aux trop longues procédures, non, mais au coût, le vent, la neige nécessitent des installations bien plus solides qu'en pleine. Et même si la Confédération finance le 60%, elle ne serait pas rentable. Quelques nuages donc sur le solaire alpin.
Merci Sandra Timmerly. Dans l'actualité internationale, à Mayotte, dans l'océan Indien, le passage du cyclone Chido a fait 11 morts. Il est considéré comme le plus intense depuis près d'un siècle sur l'île française. Il a détruit de nombreux bâtiments, l'hôpital et des logements de fortune. Ce matin, Chido a frappé le Mozambique avec des vents violents et de fortes pluies. L'UNICEF indique être sur le terrain pour venir en aide aux personnes touchées. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie est arrivé ce dimanche à Damas. Geert Pedersen a appelé ces derniers jours à la mise en place d'une transition inclusive, selon ses mots, pour éviter une nouvelle guerre civile. Une semaine après la chute du régime de Bachar al-Assad, le gouvernement de transition entend renouveler ses institutions. Le groupe HTS pour Ayat Tahir al-Sham, à la tête de l'offensive, gouvernait déjà depuis 5 ans la province d'Idlib, poche de 4 millions d'habitants. Et sur place, la majorité d'entre eux fait confiance au groupe rebelle pour diriger le pays. Manon Chaplin a pu le constater.
Difficile à Idlib de trouver une conversation qui n'évoque pas le succès d'Ayat Tahrir al-Sham. Le nom de ses représentants, son drapeau et celui de la révolution syrienne. Trois étoiles et du vert à la place du rouge sont désormais partout. Dans les rues, à l'arrière des voitures, sur les devantures de boutiques comme celle de Zakaria.
Depuis que HTS gouverne le Idlib, tout va beaucoup mieux. En quelques années, ils ont reconstruit tout ce qui avait été détruit. Ils ont créé des infrastructures bien meilleures qu'avant. Ils ont construit un stade de football. Et grâce à eux, nous avons de l'électricité et de l'eau courante 24 heures sur 24.
Idlib, gouverné par HTS depuis 2019, a longtemps fonctionné comme une poche. Un état dans l'état avec son gouvernement du salut, son premier ministre, ses ministères et ses départements locaux, mais aussi ses bombardements et ses milliers de déplacés. Mustafa a longtemps vécu dans un camp.
Dès leur arrivée au pouvoir, j'ai senti la différence, à quel point nous étions plus en sécurité. Cela a été comme une renaissance pour la ville, que ce soit pour l'éducation, l'économie, le commerce. La seule chose qui me faisait peur ici, c'était les bombardements.
Beaucoup évoquent également la présence de minorités qui n'ont pas toujours bien vécu mais qui ont toujours été acceptées. Au micro, seul un étudiant qui a souhaité rester anonyme ose émettre quelques critiques.
Ils arrêtaient des personnes qui osaient les critiquer. Ils les faisaient disparaître et disaient « surtout ne posez pas de questions sur eux ». Mais ils ont promis qu'ils les libéreraient bientôt.
Jeudi, le gouvernement de transition d'HTS a annoncé qu'il gelait la Constitution et le Parlement afin d'établir un nouvel état de droit. Manon Chaplin pour RTS Info, Idlib.
Une chanteuse iranienne s'est produite en concert et sans hijab dans son pays mercredi dernier. Prestation mise en ligne sur Internet, elle a été arrêtée. Des Iraniens dans et hors du pays saluent son courage. Parastu Ahmadi a été l'héroïne d'un film documentaire tourné par sa sœur, Sister's Tale, qui est à l'affiche dans les salles romandes. Sophie Islin l'a vu pour nous.
Coucou. De Nasrin, mère de famille et malheureuse en mariage. Elle décide de divorcer et de devenir chanteuse dans un pays où depuis 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter en public. Derrière la caméra, sa sœur, Leila Amini, qui durant 7 ans va filmer son combat pour sa liberté.
Je voulais qu'on voit le monde à travers de son point de vue. Donc pour moi, c'est pas juste ma sœur, c'est pas juste les femmes iraniennes, c'est toutes les femmes dans le monde entier. Parce que je parle du courage d'aller vers ses rêves pour toutes les femmes dans le monde. Donc Nasrin, c'est juste un symbole d'une femme dans cette société actuelle qu'on vit.
Un symbole universel, mais aussi la critique d'une société dominée par le patriarcat et les hommes en Iran. L'Iran où la réalisatrice ambitionne tout de même de projeter prochainement son film.
En fait, on ne sait jamais, la situation en Iran change tout le temps et on ne peut jamais savoir. Mais quand même, c'est un film qui reste assez intime et assez personnel dans un cadre assez familial. Donc on est confident que ça va pas poser de problèmes.
Le documentaire devrait être montré dans des projections privées, en principe autorisées. Il a été présenté en ouverture de la semaine de la critique au Festival de Locarno cet été.
Sister's Tale, ce documentaire, c'était Sophie Islin. Et si la médecine entamait sa révolution spirituelle, c'est la question d'à voix haute ce dimanche avec le psychiatre et psychothérapeute Jacques Besson.
Notre santé doit-elle tout à la science médicale? Toujours plus, toujours plus performant, nous aveugle-t-il sur une prise en charge plus globale des patients? Vieillissement, dépression, maladie chronique, addiction, notre système de santé est dépassé, trop cher? Le psychiatre Jacques Besson plaide pour une révolution de la médecine et de la science pour sortir de la seule réparation des corps, pour une médecine qui intègre la dimension spirituelle.
À voix haute,
Jacques Besson.
Manuela Salvi.
Bonjour Jacques Besson.
Bonjour.
Vous êtes professeur honoraire de la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, psychiatre et psychothérapeute. Vous avez dirigé le service de psychiatrie communautaire du CHUV et vous avez une conviction. La médecine doit faire sa révolution. Quelle est cette provocation?
Eh bien, l'expérience clinique dans ma carrière de psychiatre et d'addictologue m'a montré qu'il y a en médecine un ordre biologique qui n'est pas à contester. Je suis professeur de biologie et de médecine. Il y a un ordre psychologique et psychosocial qui n'est pas à revoir. Je suis psychiatre et psychothérapeute. Mais il y a une dimension qui est négligée et qui nécessite d'être prise en considération. C'est, dans le fond, la santé spirituelle.
Or, la médecine, elle s'est construite où le système s'est construit sur une médecine qui répare, qui répond à chaque problème de santé par une médicalisation. Où a-t-il fait fausse route, ce système-là, cette
médecine-là ? C'est une histoire ancienne, parce que si vous reprenez Hippocrate, oui, c'est pas hier, Hippocrate était prêtre d'Asclépios, un dieu guérisseur. Et en observant les malades à la consultation d'Asclépios, il a érigé un système d'observation objective et phénoménologique, et dans le fond est née la médecine positive, scientifique.
Rationnelle.
Rationnelle, oui, hémisphérique gauche du point de vue du cerveau. Et depuis lors, il y a un schisme, un clivage entre la médecine des guérisseurs et la médecine scientifique. Et maintenant, avec les neurosciences et avec des études bien conduites sur les guérisons et la médecine de l'esprit, on est obligé de considérer quelques impasses de la médecine scientifique et on doit aller plus loin.
Et c'est vrai que les impasses, notamment, elles se manifestent lors de maladies chroniques ou lors de souffrances psychiques auxquelles on répond par une médicalisation assez importante. Vous avez signé un manifeste, le manifeste pour une science post-matérialiste. On l'a bien compris, hein, la spiritualité, l'esprit, c'est ça qui vous anime, mais oui. En quoi ça concerne la médecine ?
Alors, la science post-matérialiste, c'est un manifeste qui a été signé par 400 professeurs, dont je fais partie, qui atteste qu'il y a des énigmes pour la science qui ne vont pas être résolues par la science matérialiste, qui est une idéologie. Et le manifeste propose de quitter l'idéologie matérialiste pour faire une science qui affronte les problèmes, les mystères et les difficultés contemporaines qui ne sont pas résolus par la physique de Newton et par la physique et la chimie classiques.
Donc si on suit votre raisonnement, Jacques Besson, la médecine moderne, pour n'analyser que la médecine, parce que la science c'est très large, aurait raté ou a raté la dimension de l'humain. Elle s'est concentrée sur la réparation des corps.
C'est-à-dire que c'est une vision de l'humain qui est une vision matérialiste. Donc du coup, on va manquer toute une dimension du troisième ordre de la médecine, c'est-à-dire l'ordre spirituel. On peut aborder la dimension de la conscience, qui pour moi est le point de butée de la science. La conscience est beaucoup plus complexe que ce que disent les neuroscientifiques matérialistes, qui prétendent que le cerveau produit de la conscience. Ça, c'est la position officielle. Mais on pourrait très bien inverser le paradigme et dire que la conscience est première et que le cerveau, bien sûr, il est indispensable pour accéder à la conscience. Mais la conscience est première et le cerveau accède à la conscience. Du coup, il y aurait une conscience non locale, ce qu'on savait déjà avec, par exemple, Carl Gustav Jung sur la notion d'inconscient collectif ou sur...
Célèbre psychanalyste.
Et plus tard, d'autres psychanalystes vont s'intéresser à la question de la transcendance, du dépassement de soi, comme Viktor Frankl, par exemple, qui est un psychanalyste viennois contemporain de Freud, qui va se laisser déporter à Auschwitz par loyauté à sa famille. Toute sa famille va être gazée et lui, il survit en psychanalysant le camp. Et son constat est absolument frappant. Il dit, voilà, nous sommes dans une crise de civilisation parce que nous avons refoulé l'inconscient spirituel, qui est une dimension humaine très importante.
Donc la question du sens.
Oui, il y a une clinique du sens. Et si on refoule le spirituel, alors on produit une crise de civilisation, une névrose de civilisation qui est caractérisée par le vide existentiel. Et le vide existentiel produit trois symptômes de civilisation qui sont la dépression, l'agression et l'addiction. Et on aurait tout avantage à s'occuper de cette dimension du soin et de la médecine sérieusement. Et c'est pour ça qu'il faut une médecine post-matérialiste, basée sur une science post-matérialiste, qui ne renie pas la science, mais qui lui demande de faire son boulot, qui lui demande d'aller plus loin.
qui ne renie pas la rationalité, parce que vous en conviendrez, Jacques Besson. Alors, vous batifolez, pour utiliser un terme un peu ironique, avec ces médecines-là de guérisseurs et de chamans depuis plusieurs années, mais vous comprenez que ça peut effrayer vos confrères et vos consoeurs.
Oui, bien sûr, parce que, par exemple, en psychiatrie, beaucoup de psychiatres ont peur d'affronter les questions spirituelles et religieuses, parce qu'ils ont peur, disons, de faire flamber un tableau de psychopathologie délirante ou de paranoïa religieuse, voyez-vous. Mais le problème, c'est qu'il faut distinguer entre la santé psychique et la santé spirituelle. La santé spirituelle, c'est cette clinique du sens dont je parlais, qui est un besoin non couvert chez nos contemporains. Et on peut pas répondre à la détresse spirituelle par la seule réponse psychiatrique, psychothérapeutique. Ça ne suffit pas.
Vous faites le même raisonnement pour les maladies plus physiques?
Oui, alors on peut aller plus loin parce que, par exemple, en bouddhisme, pour prendre un exemple dans une culture qui est quand même importante sur la planète, la grande santé, c'est si on a une bonne santé spirituelle qu'on aura une bonne santé psychique. Et la bonne santé psychique conditionne la bonne santé physique. Donc pour la grande santé, il faut faire de la grande médecine et c'est de la médecine des trois ordres. Et en Occident, on a pris du retard sur cette question à cause du rationalisme et de l'idéologie matérialiste.
Mais vous plaidez, Jacques Besson, pour une approche plus spirituelle de la médecine, mais très vite, il y a la tentation de percevoir la maladie comme une épreuve divine.
Alors, le danger, évidemment, ce serait de culpabiliser les patients, parce qu'on n'est pas coupable d'être malade. Ça, ce serait le piège, n'est-ce pas? En revanche, de rechercher la grande santé, d'être en bonne santé spirituelle, par la méditation, la prière, les rituels, le chant, l'apaisement, la fraternité, la solidarité, la compassion, l'altruisme, la gentillesse, la bienveillance, enfin tout ça, ça fait partie de la grande santé.
On est loin de tout l'attirail technologique de la médecine académique.
Oui, mais enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Si vous avez un syndrome grippal, vous prenez votre paracétamol comme tout le monde. Ça, c'est pas...
Vous faites quoi quand vous êtes malade, Jacques Besson?
Bon, écoutez, moi je prends un Panadol si je suis grippé. J'entends, je suis dans le premier ordre de la médecine aussi, donc c'est... voilà. Mais je ne vais pas me culpabiliser parce que j'ai fait une grippe. Parce qu'il y a aussi le rapport à la maladie qui est important. Il y a des gens qui restent au lit parce qu'ils ont un rhume. Puis il y a des gens qui vont au boulot avec une pneumonie. Donc on voit bien qu'il y a trois ordres.
Et vous revenez effectivement, Jacques Besson, sur cette révolution que doit ou devrait faire la médecine. Parce qu'on l'a compris, c'est un paradigme qui change radicalement le rapport à la maladie, qui instaure un rapport à la santé plus qu'un rapport à la maladie. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà en marche?
Le problème, c'est que c'est morcelé. Vous savez, il y a un philosophe de la spiritualité qui s'appelle Yann Barbour qui a dit qu'il y a trois types de rapports entre la science et la foi. Le premier type, c'est la confrontation. On dit les autres ont rien compris. Le deuxième type, c'est le parallélisme. Chacun est dans son coin.
Les spirituels avec leurs bougies et les scientifiques
et les
avec
scientifiques
leurs
scanners. Les scientifiques avec leurs éprouvettes, leurs médicaments. Et puis, le troisième ordre, c'est les zones frontières. Il y a quand même des zones qui sont, disons, incertaines. On peut évoquer la mort imminente, mais en physique, on peut évoquer le Big Bang, l'origine de l'univers, la flèche du temps, des choses pour lesquelles on est dans l'incertain. Et puis, il y a la quatrième posture à laquelle j'adhère, qui est dans le fond l'intégration. On peut être un scientifique rigoureux et un mystique curieux. C'est compatible.
Mais est-ce que la médecine ne se rachète pas une conscience en mettant cette médecine intégrative dans ses pratiques et en mettant... C'est l'idée aussi du patient au centre. Est-ce qu'elle ne se rachète pas une conscience?
Oh, je crois que la médecine intégrative, elle est honnête. C'est-à-dire que la définition même de la méthode médicale, c'est la clinique. Et la Suisse, pour ça, elle est assez pragmatique. On a une médecine qui regarde si les gens vont mieux. Il y a beaucoup de traitements qui font que les gens vont mieux, mais pour lesquels on n'a pas d'explication scientifique très solide.
Mais vous évoquez, Jacques Besson, la conscience, la démarche qui est a priori aussi individuelle dans cette nouvelle forme de médecine. Comment vous l'articulez avec le système de santé actuel?
Alors, l'approche individuelle n'est pas incompatible avec l'approche collective. Peut-être, je vais me permettre de vous donner ma définition de la spiritualité. Après beaucoup de réflexions et l'enseignement à la faculté, pour aussi être en accord avec les autorités académiques, j'ai défini la spiritualité pour les étudiants comme un besoin naturel et universel. Et ce besoin concerne le sens. L'humain a une volonté et un besoin de sens. Et ce sens, il est donné par le triple lien. Le lien avec soi-même, donc la réconciliation avec soi, l'honnêteté, l'horreur du mensonge. Donc il y a une dimension individuelle, effectivement. Mais il y a aussi une dimension relationnelle. Parce que la spiritualité, c'est aussi le lien avec les autres. C'est le lien fraternel, c'est le lien solidaire, c'est le lien d'amitié. Mais il y a un troisième lien qui est très important. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important, c'est le lien avec la nature. Les peuples racines nous le rappellent tout le pourtant, nous faisons partie de la nature et il faut se réconcilier avec la nature et avec l'univers. Parce que l'univers est beaucoup plus grand que ce que nous croyons. Il y a de l'invisible, de l'inconnaissable. Et ce troisième lien, il a quelque chose de collectif. Nous devons aussi changer notre rapport au monde et notre rapport à l'univers dans lequel nous vivons.
Mais là, vous pensez très large, Jacques Besson. Notre vie, donc notre santé, au sens large, exige de l'ouverture à l'autre, le respect de la fragilité, le respect de la nature. Mais aujourd'hui, dans notre système de santé, comment vous articulez cette révolution que vous espérez de la médecine, médecine plus spirituelle, et le système d'aujourd'hui?
Alors c'est mon combat. C'est le combat pour une médecine post-matérialiste qui réconcilie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision médicale, scientifique, rigoureuse, et on peut explorer l'invisible, la médecine des guérisseurs, la médecine des chamans, la médecine des énergies, s'inscrire dans une santé qui serait la grande santé, où on peut accepter que nous sommes tous, dans le fond, des cellules spatio-temporelles, si vous voulez, d'un monde plus grand et qui a une dimension universelle, collective et individuelle. Les trois dimensions sont compatibles.
On ne demande qu'à vous suivre, Jacques Besson, mais comment vous expliquez ça à un cardiologue qui va ouvrir le thorax pour réparer notre cœur ou à un assureur que c'est ça la voie?
Alors, pour le cardiologue, j'ai pas de peine à le convaincre parce que je dirais que 80% de ses consultations, c'est des troubles fonctionnels. Donc, les gens, ils viennent parce qu'ils ont eu une extrasystole. Donc là, on voit bien que c'est l'angoisse. On voit bien que c'est le stress. On voit bien que ce sont des maladies de civilisation qui vont envahir les consultations cardiologiques. Alors, bien sûr, si vous avez une artère bouchée, ben, merci, on met un stent et c'est une très bonne chose. Et puis, l'assureur, si vous voulez bien regarder d'un petit peu plus près, combien de soins médicaux ciblent et répondent au mauvais niveau, ou pas dans le bon ordre, dans le fond, à la détresse spirituelle, au vide existentiel des patients qui cherchent des réponses médicales à un mal-être existentiel. Alors là, il y a des économies d'échelle à faire qui sont mais considérables.
Mais il faut d'abord convaincre les médecins et les patients de ne pas aller chez le médecin en disant « je veux sortir avec un médicament ».
Alors, il y a dans le regard sur la médecine une attente magique dont la médecine est complice. Elle est beaucoup dans la toute-puissance et il faut dire qu'elle a eu des progrès magnifiques et qu'elle a une belle efficacité sur beaucoup de problèmes. Mais il y a encore des besoins non couverts. Et c'est surtout autour des maladies de civilisation, autour de l'angoisse, autour de la dépression, de l'agression et de l'addiction. Et là, il y a du boulot pour intégrer cette médecine des peuples racines, cette médecine de l'esprit finalement, et faire ce lien, pour lequel je suis un militant, entre science et spiritualité. Parce que ça vient, et c'est possible, avec les neurosciences, avec les nouvelles méthodes d'investigation, avec l'épidémiologie, on peut faire des études, d'ailleurs il y a des études qui montrent que la spiritualité a un impact tout à fait favorable sur la santé, tant physique que psychique, et les chiffres sont là.
La médecine sera spirituelle ou ne sera pas. On emprunte une phrase à André Malraux qu'il n'a jamais prononcée, mais sera spirituelle ou ne sera pas.
En tout cas, elle doit être élargie à la spiritualité.
Et c'est votre combat. Horizon temporel, vous parliez de cellules spatio-temporelles à l'instant. Dans quel horizon de temps vous espérez ce changement radical, à la fois dans le lien au patient, à la fois du patient à sa maladie et à la fois de tout le système de santé?
Alors, il y a le temps qui peut être court, hein, si il y a un effondrement du système pour des raisons économiques et politiques.
Ce qui n'est pas impossible.
Ce qui n'est pas impossible, je veux dire, on est dans un monde incertain à toutes sortes de niveaux. Donc, s'il y a une raréfaction des ressources, si tout cela coûte de plus en plus cher, peut-être que le système se dira, tiens, les trois ordres de la médecine, c'est pas idiot, en termes de prévention, en termes d'accompagnement.
En termes de promotion de la santé aussi.
Promotion de la santé. Voilà, des leviers quand même puissants pour faire des économies d'échelle. Et ça, c'est le temps qui peut être potentiellement court. Si tout d'un coup, il y a un rationnement qui s'installe, il faudra définir des priorités en termes de thérapie, en termes de prévention, mais aussi en termes de vieillissement. Parce qu'il y a, dans la médecine du troisième ordre, il y a aussi une approche plus sereine de la finitude, d'acceptation de la mort, de la vulnérabilité. Peut-être qu'on doit aussi affronter la finitude et la mort dans la médecine. Ce qui est...
Or, elle nous promet l'immortalité.
Elle nous promet trompeusement l'immortalité.
C'est un vrai projet de société. C'est ça aussi votre combat, Jacques Besson. Ce n'est pas que le système de santé, mais c'est un vrai projet de société.
Oui, je crois, le Dalai Lama, de des conversations privées que j'ai eues avec lui quand il a écrit son livre « Beyond Religions », aller au-delà des religions, en parlant de spiritualité mondiale, hein, il dit « il n'y aura pas de mondialisation sans spiritualisation ». C'est ma conviction profonde. Il faut se réconcilier les uns avec les autres, avec soi-même et avec la nature et l'univers.
Donc, révolution intime et collective, et c'est votre combat. Merci infiniment, Jacques Besson.
Merci.
À voix haute à réécouter ce soir à 22h45 sur RTS Première et sur notre application Play RTS. La météo, les éclaircies vont persister pour donner un temps bien ensoleillé, sauf au nord du Jura et dans les Préalpes où un temps plus nuageux va persister, température 5 degrés au maximum avec de la bise autour du Léman. Pour demain, des nuages sur le Jura, la Joie et le nord du plateau et du soleil ailleurs à part quelques brouillards. Merci d'être à l'écoute d'RTS Première, c'est la fin de ce journal. Merci à Sylvain Michel et Frédéric Sand qui étaient à la technique ce matin. Demain, Guillaume Rey, pour l'instant cœur à cœur, il est 13h, bon après-midi.
Tournée romande, Antonin Scherrer.
Deuxième symphonie de Brahms par l'OSR et Jonathan Nott, messe de Zelenka, sonate pour violon de Prokofiev dans une lecture de Wildefranc et de Mikhail Lifitz à Vevey, symphonie numéro 70 de Haydn par l'OCL et Heinz Holliger, leader d'Hugo Wolf, et enfin un concerto pour violon en mi mineur de Mendelssohn sous l'archet de Yosif Ivanov Hassanen. Vous avez bien fait de choisir Espace 2 pour mettre de l'harmonie dans votre après-midi. Luc Thérapon à la programmation, on est parti pour 2h30 de captation live réalisée dans toute la Suisse romande. On commence donc avec la deuxième symphonie en ré majeur, l'opus 73 de Johannes Brahms. C'est durant l'été 1877, à Pörtschach, bord du Wörthersee, en Carinthie, que Brahms compose cette œuvre parmi les plus sereines, les plus spirituelles de sa production. Contrairement à la première, qui avait mis près de 20 années à éclore, elle ne lui coûte que 4 mois de travail. Cette symphonie est quasi contemporaine du concerto pour violon, avec lequel elle partage bien plus que la tonalité de ré majeur. En effet, bien que son caractère soit plus apaisé que la symphonie précédente, cette deuxième symphonie n'est pas exempte de passages sombres, voire tourmentés, notamment dans le développement du premier mouvement. Comme souvent, Brahms brouille les cartes à souhait. Des quatre symphonies, c'est peut-être d'ailleurs la plus audacieuse. D'aucuns ont cependant qualifié l'œuvre de mozartienne. Pour d'autres, il s'agirait plutôt de la dixième de Schubert. Pourtant, c'est bien son propre langage, à la fois pudique et mélancolique, que parle Brahms, qui écrit à son éditeur Simrock en lui confiant la partition originale. Je cite « La nouvelle symphonie que j'ai composée est si mélancolique que nul ne pourra la supporter. Je n'ai jamais rien écrit d'aussi mélancolique en mode mineur et cette partition devrait être publiée avec des bordures noires. » Rien n'est moins sûr, si l'on pense notamment à l'exubérant final. Hans Richter crée l'œuvre à Vienne le 30 décembre 1877. Elle suscite très vite de vives éloges et ne quittera plus le répertoire des grandes formations. Ici, l'Orchestre de la Suisse romande et son directeur artistique Jonathan Nott, en concert le 26 janvier 2022 au Victoria Hall de Genève.
Thank you. Thank you.